Le festival Attaque, organisé chaque année par l'association éponyme et qui, faute d'édition reportée pour cause de Covid en avril, aurait dû se tenir en novembre dernier. Dans le cadre de ce festival, en partenariat avec l'association Team Sama, le documentaire Et maintenant les cimes devait être projeté. Synopsis, Emma, s'il te plaît.
Jackie et Elina ont connu la rue. Elles l'ont aimée et détestée. Aujourd'hui relogées, elles nous ouvrent leurs portes. Persévérantes, ces femmes recherchent l'équilibre et redéfinissent leurs repères. Ce film révèle leur prise de parole, mais pas que. De là des mots, ces femmes se saisissent des caméras et nous partagent le regard qu'elles portent sur ce retour au logement.
Merci Emma. Rencontre tout de suite avec Anaïs Cadillon, montoise d'origine, co-réalisatrice de l'œuvre à l'initiative du documentaire. Bonjour Anaïs Cadillon, merci d'être avec nous. Alors Anaïs, vous êtes ingénieure en anthropologie et vous avez co-réalisé le documentaire à l'origine de cet entretien et maintenant les cimes. Il est sorti où il a été projeté officiellement pour la première fois en novembre 2017 et vous l'avez réalisé avec Jacqueline Bourdin et Elina Dumont, deux femmes qui ont connu la rue. Alors deux questions pour débuter. Comment ces femmes, Anaïs, ont-elles croisé votre vie et qu'est-ce qui vous a mené à cette aventure documentaire?
Alors bonjour et merci du coup de l'intérêt que vous portez à ce documentaire. Je travaillais durant mon master sur les questions de précarité et je travaillais auprès de femmes sans domicile à Bordeaux, que je rencontrais soit directement dans la rue, soit via des associations. À la fin de mon master, je me suis orientée vers une thèse sur la question du relogement et de comment ces femmes se réappropriaient un habitat après avoir passé des années à la rue, parce que j'en avais accompagné certaines, et je me suis très vite rendu compte que c'était pas une expérience forcément facile, que le logement n'est pas forcément une fin en soi, et il y avait quelque chose à creuser, donc j'ai décidé de m'orienter sur ce thème-là. Et donc j'ai rencontré donc Jacqueline, je l'ai rencontrée via une association. Elle m'a été présentée via une association. Elle était déjà relogée quand je l'ai rencontrée. Et Elina Dumont, en fait, je l'ai rencontrée dans une salle de cinéma à Paris parce qu'elle avait été sollicitée pour le documentaire Invisible de Claire Lajeuny. Et j'avais été invitée à l'avant-première de ce film. Et Elina était dans la salle, en fait, et on s'est rencontrés comme ça. Et puis on a échangé, et elle a commencé à me parler de son parcours. Et voilà. Et puis après, on a pas mal discuté, on s'est revus à plusieurs reprises. Elina, en tout cas, je la connaissais bien avant l'idée du projet du film. Et c'est après quelques mois, en fait, que je lui ai proposé ce film-là. Alors que Jackie, je l'ai rencontrée pour ce film.
Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit, je vais faire un film autour de cette thématique-là et avec ces femmes-là?
Alors, quand j'étais en master et que je travaillais vraiment sur la rue, et quand les femmes sont à la rue, j'ai fait un projet photo. Un projet photo participatif avec 6 femmes qui étaient à l'époque à la rue. Ce projet photo, il est venu à la fin de ma première année de master, de master 2, parce qu'en fait, j'ai éprouvé un très grand sentiment d'impuissance. J'ai broyé du noir, je n'allais plus du tout bien. Je ne me sentais pas du tout légitime d'écrire un mémoire et d'obtenir un diplôme sur leur vie, en fait, et que ça m'arrête là. Donc, j'ai décidé de refaire une deuxième année de Master 2 pour faire un projet photo. Donc, j'ai fait un projet photo ethnographique avec 6 femmes qui étaient à la rue, à qui j'ai confié des appareils photo jetables. Et j'ai fait, dans la même démarche que le film, en fait, des ateliers d'écriture, des ateliers de photo. Et elles étaient totalement libres, en fait, de ce qu'elles voulaient prendre en photo, si elles voulaient écrire des légendes, etc. Et voilà. Et ensuite, ce projet-là leur a fait du bien. Il y en a beaucoup qui ont été relogés, qui ont pris confiance en elles, en fait. Et moi aussi, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir faire quelque chose avec elles et créer quelque chose avec elles et être dans une autre relation. Et du coup, quand j'ai démarré mon doctorat sur la question du relogement, je me suis dit que pour tenir le coup, parce que c'est des sujets qui émotionnellement sont très lourds, que pour tenir le coup, en fait, j'avais besoin de créer quelque chose et créer quelque chose avec elle. Donc, je me suis dit, je vais faire ce doctorat, mais je vais faire aussi un documentaire sur, sur ce sujet-là. Et un documentaire où c'est elles qui vont, parler, quoi. Donc, et donc, j'ai démarré mon doctorat et je me suis arrêtée en chemin pour me consacrer au documentaire, parce que je voulais pas écrire une thèse qui allait faire 300 pages et qui allait rester dans une bibliothèque universitaire et être lue par pas forcément grand monde, parce que c'est pas des vocabulaires qui sont accessibles à tout le monde. Donc j'avais envie de faire un documentaire qui serait, ben, pour que ça soit diffusé au plus grand nombre, en fait, et que pour que tout le monde puisse avoir accès à ce genre d'informations et à ce genre de réflexion.
Et donc voilà. dans l'idée dans la continuité, en fait, de cette exposition participative, là, le documentaire, c'est la même chose, c'est ce que vous disiez, en fait. Jacqueline et Elina avaient chacune une caméra, vous aussi vous en aviez une, et c'est un peu un mix de ces trois regards qui construisent le documentaire. Quel a été l'intérêt, en fait, de mixer ces regards? Qu'est-ce qui, selon vous, passe mieux avec une caméra chacune?
Ben moi, je suis vraiment dans la démarche de création participative ethnographique d'ailleurs, et je considère qu'elles sont les plus à même de parler de ce qu'elles vivent. Donc, je voulais vraiment avoir leur regard à elles, un regard intime et de l'intérieur. D'autant que là, on est vraiment sur un sujet qui traite du domicile. Donc, le domicile, c'est aussi l'espace privé, l'espace intime. Et voilà. Et en fait, l'idée, c'était aussi que ce film, il révèle ce qu'elles, elles ressentent et ce dont elles avaient envie de parler sur cette question du relogement. Et pour moi, c'était elle qui pouvait le dire et pas moi, même si, voilà, moi, je pouvais recueillir leurs témoignages, etc. Mais voilà, pour moi, c'était leur regard sur cette expérience-là qui devait ressortir. Et puis, parce que, voilà, c'est des sujets qui sont... Alors, le thème de la rue, il est très traité. Le thème du relogement, il est moins traité. En documentaire, moins traité aussi. Et alors quand c'est les personnes elles-mêmes qui prennent la parole et qui posent un regard dessus, c'est quasiment inexistant, quoi. Une petite précision, Elina et Jackie ne se sont rencontrées que le soir de la première projection publique. Pendant toute la durée du film, elles savaient que l'une et l'autre participaient à ce projet. Elles se sont échangées deux lettres manuscrites pendant le projet. Voilà, pour se rencontrer de loin, mais sinon elles se sont rencontrées pour la première fois le soir de la première projection. Donc du coup, c'était voulu, en fait, de ma part, c'était justement pour qu'elles ne se donnent pas d'idées ou qu'elles ne s'influencent pas sur les prises de vue, quoi.
Donc là, c'était redonner, enfin non, même créer un espace de parole pour ces femmes-là, qu'elles racontent leur expérience en tant que femmes qui ont vécu la rue et qui ont finalement retrouvé un logement. Et ce qui ressort de ce documentaire, et assez vite en fait, c'est que c'est pas forcément évident pour elles de se réapproprier un logement après avoir passé, ça dépend, le temps n'est pas le même pour toutes, mais avoir passé du temps dans la rue.
C'est ça. Et puis, ça a été très long pour elles de prendre confiance et de s'exprimer à la caméra. Ça a été un projet qu'on a mené sur plus d'un an. On le voit dans le film. Au début, on faisait des ateliers de dessin, des ateliers d'écriture, des ateliers d'expression orale. Donc, Jackie, j'allais la voir toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Elina, comme elle est sur Paris, je la voyais une à deux fois par mois. Et du coup, voilà, ça a été très, très progressif. On a commencé le projet en novembre 2016. Elles ont eu leur caméra en avril 2017. Et en fait, elles se sont vraiment appropriées la caméra je dirais, à partir du mois de juillet. Et on a terminé le montage fin octobre, début novembre.
Qu'est-ce que vous vous en retirez aujourd'hui de cette création de documentaire avec ces deux femmes ?
Ben, je pense que c'est la mission est accomplie parce qu'on, ben, elles ont réussi à prendre la parole et à s'approprier cet espace d'expression citoyen. Elles en sont très fières. Moi, j'ai vu une réelle évolution en fait dans leur rapport à leur habitat pendant le projet. Notamment chez Elina, en fait, où on le voit tout au long du film. Au début du film, son appartement, il n'était pas forcément aménagé, pas forcément rangé. Et au fil du projet, en fait, elle prenait conscience de tout ça et elle a mis en place des choses. Elle a changé plusieurs fois son miroir de place, elle a mis des étagères. Voilà, elle s'est approprié son appartement. Donc ça leur a permis ça leur a permis une confiance en elles, et puis ça leur a permis ensuite de rebondir sur d'autres projets, comme Jackie avec le bénévolat. Voilà, donc pour moi c'est vraiment une réussite. Et puis je trouve que ma caméra qui fait un peu une mise en abîme et qui révèle le rapport qu'on avait aussi toutes les trois, est plutôt réussie. Parce qu'on voit au début que au début du projet, Jackie, par exemple, elle était assez renfermée. Elle me livrait pas grand-chose. Et puis au fil du projet, elle est rayonnante et elle me partageait beaucoup. Donc pour moi, c'est une expérience réussie. Et sur un sujet social comme ça, ça peut être quasi thérapeutique en fait.
Hormis la diffusion reportée du documentaire à Mont-de-Marsan, ce sont aussi les chiffres annoncés par la Fondation Abbé Pierre en novembre 2020 qui m'ont amené à réaliser cette interview avec Anaïs Cadillon, experte en la matière. La Fondation a comptabilisé environ 185 000 personnes en centre d'hébergement, 100 000 dans les lieux d'accueil pour demandeurs d'asile et 16 000 personnes dans les bidonvilles. S'y ajoutent les sans-abri, plus difficiles à quantifier. Au total, 300 000 environ SDF sont dénombrés en France. Ce chiffre a doublé depuis 2012. J'ai donc demandé à Anaïs Cadillon ce que lui évoquaient ces chiffres, ce qu'il disait de la situation du pays et comment son documentaire, et maintenant les CIM, pouvait servir comme outil de sensibilisation.
Déjà, je pense que ce documentaire, il devrait être vu effectivement par des travailleurs sociaux, comme le dit Jackie, et par des professionnels et des institutions qui sont en charge de la lutte contre les précarités. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le logement, c'est pas une fin en soi, et que mettre des gens dans des logements sans qu'ils y soient prêts ou sans qu'ils y soient accompagnés, en tout cas, parfois, ça échoue. Donc je pense que c'est un documentaire qui peut éveiller et qui peut en tout cas susciter des réflexions là-dessus. Voilà, sur la manière dont on gère l'accompagnement de ces personnes. Ensuite, concernant les chiffres, bon moi, en anthropologie, on n'aime pas trop les chiffres. On n'aime pas trop les stats. Parce que la définition de qu'est-ce qu'un sans-domicile fixe, qu'est-ce qu'un sans-abri, etc., elle est toujours un peu biaisée par qui fait les statistiques, etc. Et puis, il y a toujours une part d'invisibilité qui est assez grande. Cela dit, bien sûr que le nombre de personnes sans-abri augmente. Je pense qu'il y a une réelle... ingérence de la part des pouvoirs publics qui ne mettent pas l'argent forcément là où il y en aurait le plus besoin et qui utilisent des stratégies pour préserver leur économie. J'ai des exemples aussi. Par exemple, je me souviens quand j'étais en master, voilà, pendant l'hiver, on voit beaucoup de personnes qui sont à la rue, qui dorment sur les trottoirs à Bordeaux. En hiver, au printemps, à l'automne, et puis dès que l'été arrive, les CRS sont là pour leur demander de partir parce qu'il faut que le centre-ville de Bordeaux soit, soit beau pour accueillir les touristes. Donc il y a plein de stratégies comme ça qui révèlent en fait clairement que c'est pas l'humain qui prime, mais que c'est plutôt l'économie. Voilà, bon, c'est la même chose dans beaucoup de domaines. Moi, je connais pas mal de travailleurs sociaux qui sont très humanistes et qui sont formés et qui aiment leur métier de base en fait et qui font ce métier-là pour aider, mais qui sont contraints par des
protocoles.
Oui, ils sont contraints par des protocoles et puis ils ont des chiffres en fait à rendre. Ils ont des quotas à remplir et du coup, ils peuvent pas en fait exercer leur métier pour lequel ils ont été formés comme ils le voudraient. Bon, moi, quand je faisais ma thèse, j'ai arrêté ma thèse aussi pour une raison politique. C'est que la structure dans laquelle je faisais ma thèse est une structure qui est censée reloger, en tout cas, même pour du logement d'urgence, que des personnes sans domicile fixe, en tout cas françaises, qui ne sont pas dans un processus de demande d'asile. Et sauf que moi, en tant qu'ethnographe, je me laisse guider par le terrain, et si la réalité, elle m'amène à rencontrer des personnes qui sont étrangères ou en demande d'asile, et ben, elles font partie de mon panel, en fait, de personnes que je vais suivre, quoi. Et puis je me suis, en fait, on m'a pas laissé le choix, on ne m'a pas autorisé à travailler sur ces personnes étrangères parce que, en fait, derrière la création de mon poste, il y avait un enjeu politique qui était de rendre des comptes à la préfecture comme quoi c'était des Français qui étaient prioritaires sur les hébergements d'urgence parce que les demandeurs d'asile ont leur propre centre d'accueil de demandeurs d'asile.
Mais les chiffres pour les demandeurs d'asile, ils sont quand même si vous n'aimez pas ça, mais dans les décomptes là, visiblement de la Fondation Abbé Pierre, dans les 300 000 personnes sans domicile fixe aujourd'hui, il y en a 100 000 dans les lieux d'accueil pour demandeurs d'asile, donc ils ne sont pas non plus inexistants. Et ça m'amène justement, Anaïs, à vous questionner sur le récent événement. On a vu le 23 novembre dernier à Paris, place de la République, des demandeurs d'asile, justement des personnes migrantes qui sont installées dans des tentes à la demande d'associations pour justement sensibiliser un peu le public et les autorités à leur situation, dire qu'ils étaient effectivement là et qu'il y avait des choses à faire. Et puis, ils ont été délogés de manière tout à fait brutale. Ça vous fait quoi, vous, de voir ces images?
Ça me noue l'estomac et je me demande où est-ce qu'on va, en fait. Enfin, comme beaucoup de gens, j'ai pas de mots, ça me met dans une rage... Je sais même plus qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Mais toutes les actualités là, elles me débectent et je sais même plus qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir à des valeurs un tant soit peu démocratiques et fraternelles. Je j'ai pas de mots. Mais le problème c'est que nous on en a plein des idées, le peuple en a des idées, mais... Mais on n'est plus entendu du tout, quoi.
La voix d'Anaïs Cadillon, un tantinet désarmé face au climat qui règne aujourd'hui en France. La projection du documentaire « Et maintenant les cimes » devrait se dérouler un jour prochain, en 2021. D'ici là, si vous souhaitez vous le procurer, contactez-nous. Et puis, petit plus, le livre d'Elina Dumont, « Longtemps j'ai habité dehors » aux éditions Flammarion, est disponible en librairie. Et quand elle en a le droit, la possibilité, eh bien figurez-vous qu'elle joue son spectacle sur scène. Peut-être la ferons-nous venir aussi un jour prochain.
Faites vos valises.
Faites vos valises.
Restez sur MDM.
MDM.
Et sur MDM, on retrouve nos petits stagiaires chéris pour éventuellement se faire un débrief sur cette interview. Alors, dites-moi tout.
Ça, on voit que Anaïs, vraiment, elle est touchée par cette cause et vraiment, ça se voit qu'elle aime cette cause. Enfin, je trouve ça vraiment superbe qu'il faudrait qu'il y ait plus de gens comme elle qui aident les sans-abri. Parce que c'est injuste, quoi. Il ne faudrait pas qu'il y en ait... C'est pas normal. Et enfin, voilà.
C'est son implication auprès de ce public-là qui te touche.
Ouais, voilà.
Ok, très bien. Et toi, Fabio, tu as un petit commentaire?
Moi, j'ai trouvé ce reportage, enfin, cette interview très intéressante. Et ça nous fait voir la réalité de la rue et des logements.
Mais c'est super.